أيها الإخوة الأحرار في كل مكان، سلام عليكم من صوت الجمهورية الجزائرية.
This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence.
أشهد. Histoire et mémoire.
Les colonisateurs se sont toujours attachés à trouver des justifications morales, presque, je dirais, à leur entreprise coloniale. Et donc, un des moyens était, regardez comment ils traitent leurs femmes.
C'est pas vrai, on n'est pas entre deux mondes, on n'est pas entre deux cultures, ni rien du tout. On a une culture algérienne qui est bien définie, je crois, l'algérianité.
Au temps du prophète, il a donné beaucoup de droits aux femmes, mais au cours de 14 siècles, on ne voit aucune trace.
Nous avions acquis, pendant la période de libération, pendant la période de lutte de libération, le droit d'égalité.
Avec des Moudjahidettes, nous étions les pionnières de la création de l'organisation des femmes.
Les femmes, ce qu'elles nous réclament en premier lieu, c'est du travail. C'est le problème, la préoccupation première. Et dans le cadre d'industrialisation donc, et de création d'emplois nouveaux prévus par le plan, il y a très peu de choses prévues pour les femmes. Évidemment, on dit qu'il faut d'abord donner du travail aux hommes.
C'est curieux, ça n'a pas été fait en 62, ça n'a pas été fait en 70, ça n'a pas été fait en 80, ça a été fait en 84. Certains législateurs conservateurs se sont rendus compte que la société avait évolué sans qu'ils s'en rendent compte, et vite, vite, ils ont dit on va mettre des serrures.
Auparavant, quand une femme divorçait ou quand une femme avait des problèmes, elle revenait chez elle, elle était accueillie chez elle, et il n'y a plus rien maintenant pour la protéger en ce qui la concerne. Donc elle se retrouve où? Elle se retrouve dans la rue.
هذوما الجزائريات تعلمنا منهم التحدي، تعلمنا منهم الوطنية، تعلمنا منهم كيف نبنوا الجزائر صح.
Bonjour. Fachhadou Histoire et Mémoire continue cette semaine sa réflexion sur les femmes algériennes. L'entrée d'une majorité d'entre elles dans le mouvement national et dans la guerre dont nous avons traité la semaine dernière avait préparé l'ensemble des femmes à jouir légitimement de la liberté arrachée. À écouter nos jeunes femmes d'aujourd'hui parler d'évidence quant aux études, au travail et au pouvoir de décider par elles-mêmes, nous pouvons mesurer le chemin parcouru. C'était moins évident à l'indépendance. Malgré les résistances du corps social qui considère majoritairement que la place des femmes est au foyer, se mettent très vite en place une constitution, une législation du travail, de protection sociale, de santé et d'éducation égalitariste. La scolarisation des filles va se révéler comme le levier puissant de l'émancipation des femmes algériennes. Elle leur ouvrira les portes de l'emploi et de plus en plus ouvertement celle de la représentation politique. Ce parcours de 55 ans, avec ses espoirs, ses attentes, ses désenchantements, brille aussi par ses conquêtes. C'est ce que nous résumera le billet de Rachida Mansaf. Hassan Arab donnera la parole à une jeune historienne anglo-algérienne, Natalia Vince, pour parler des femmes après l'indépendance. Aïcha Hammer, notre réalisatrice, a retrouvé des archives sur les femmes algériennes qui permettront de se rendre compte du chemin parcouru par notre société. Le reportage de Sidali Fares fait la place à une jeune femme que vous reconnaîtrez, car à son époque, elle en a fait plus, avec une médaille d'or, que tous les discours. Rachida Mansaf nous présentera un ouvrage d'une historienne française sur les femmes algériennes pendant la colonisation. Nous finirons avec Samira Chouadria, donnant voix à une icône algérienne, grande figure de la littérature et immortelle, Assia Jabbar. Rachida Mansaf, dans votre billet, vous allez donc revenir sur les femmes de ces années-là, celles de 1962 à nos jours.
À l'indépendance, on chante, on rit, on danse, on crie. Mais après la fête, les tâches de l'heure exigent une mobilisation générale de tous pour reconstruire le pays. Il faut moissonner, labourer, nourrir, soigner, loger les millions d'Algériens en détresse, organiser la rentrée des classes, remettre les petites entreprises en marche, nettoyer les rues et les ruines, acheminer le pétrole et le gaz, transporter hommes, femmes et enfants, produire l'électricité, distribuer l'eau, payer les salaires et tant de choses encore. Mais il faut aussi décider et gouverner. Et c'est là que le bât blesse. Elles ne sont qu'une poignée de femmes à l'Assemblée constituante. Et le premier gouvernement, comme les suivants d'ailleurs, n'en compte aucune. Pas plus, pas moins que précédemment dans les structures dirigeantes du FLN historique. Il n'empêche, les femmes sont partout, à la campagne comme à la ville, en haïku tête nue, leur efficacité redoutable leur ouvre les esprits et les cœurs. On les aime à ce moment-là, nos femmes, on les glorifie, on a de la joie à les voir, à les croiser, à les montrer. Mais on attend d'elles qu'elles respectent leurs tâches anciennes. La société, livrée à 90% à l'analphabétisme, cultivée par le colonialisme, ne pouvait du jour au lendemain envisager une répartition différente des rôles au sein de la famille. Beaucoup d'hommes attendaient après la guerre de retrouver le repos du guerrier, ne voyant dans l'action de leur compagne que l'expression de la fidélité ancestrale des épouses et du sérail par des temps difficiles. Ils ne réalisaient pas que leurs femmes, que leurs sœurs avaient changé. Ils ne réalisaient pas que leurs filles espéraient un destin différent de celui de leur mère et de leur grand-mère. Eh bien, de ce point de vue-là, quel parcours accompli. En 2017, nos jeunes filles et nos femmes, dont une au moins sur six travaille aujourd'hui, sont bien loin de la société que nous étions en 1962, où 97% de femmes étaient femmes au foyer. Elles sont loin de se demander si elles vont être autorisées ou non à faire des études ou à travailler. Elles ont les meilleurs résultats des écoles à l'université. Elles sont majoritaires dans les métiers de l'éducation et de la santé. Elles sont 40% dans la justice. Et depuis la loi sur la parité, elles sont un tiers dans toutes les assemblées politiques. Pour celles qui ont 15 et 20 ans en 2017, que signifient les batailles familiales pour entrer au lycée et à la fac, pour travailler sans faire honte à sa famille? Savent-elles qu'au temps de leur mère, les crèches étaient si rares qu'il leur fallait renoncer à travailler ou s'épuiser dans la double journée de travail, dehors et dedans, toujours parfaites partout? Peuvent-elles imaginer qu'il a fallu dénoncer des débats de l'Assemblée populaire nationale sur la longueur du bâton qui devait servir à battre les femmes afin de l'inscrire dans le code de la famille en gestation? Qu'il a fallu bloquer en 1965, en 1973 et 77 d'autres projets de code de la famille tout aussi étranges? Et l'autorisation de sortie du territoire imposée aux femmes en 1980? Savent-elles, celles d'aujourd'hui, que leurs mères ont dû se battre pour voyager sans autorisation de leur tuteur? Se battre encore pour que lors des distributions de quotas de logement, les travailleurs ne soient pas prioritaires sur les travailleuses? Se battre encore pour que leurs fils ne leur soient pas retirés à la puberté quand elles étaient divorcées? Se battre encore et toujours pour que leurs compétences soient reconnues et respectées? Savent-elles que Madame la juge au tribunal, Madame la chirurgienne à l'hôpital ou la pilote dans son avion devaient produire une autorisation de leur mari pour avoir le droit de travailler, qu'elles devenaient, une fois rentrées chez elles, des mineures, astreintes à obéir au père, au mari, aux frères plus jeunes parfois, ou aux fils? Que savent-elles des prêches incendiaires qui accusaient les femmes de provoquer la fitna et de voler le travail des hommes, des insultes, des diffamations, puis des violences des années 90, des enlèvements, des mutilations de ces vies écourtées, assassinées pour un bout de tissu refusé, pour une frange découverte. Elles connaissent peut-être leurs droits récents qu'une campagne acharnée de plusieurs années réussit à inscrire dans la loi contre le harcèlement au travail. Croient-elles que la loi contre les violences faites aux femmes s'est faite toute seule à l'Assemblée et au Sénat? Et même leur vote prochain, savent-elles que juste avant leur naissance, les hommes algériens pouvaient voter par procuration à concurrence de 5 voix, alors qu'aujourd'hui, personne ne peut voler la voix d'aucune femme? Et comment le saurait-elle? Existe-t-il un seul lieu, universitaire par exemple, où l'on puisse apprendre l'histoire de nos aïeuls et de nos aînés, leur histoire et l'histoire de leur lutte? Mais si la caricature s'est éloignée et que les signes sont moins ostentatoires, elles savent bien, nos jeunes d'aujourd'hui, qu'il leur faut toujours faire plus, faire mieux, pour se faire accepter dans les espaces publics et professionnels. Les violences se rappellent à elles de temps à autre, aux portes des cités universitaires ou dans la rue, et même dans l'univers supposé protecteur de la famille. Les inégalités n'ont disparu ni dans le monde, ni en Algérie. Mais si malgré tout, nos conquêtes leur semblent acquises, tant mieux, elles n'en auront que plus d'ambition. L'avenir sera ce qu'elles en feront.
Fachadou, histoire et mémoire se poursuit dans un court instant. Hassan Arab, vous nous proposez un témoignage particulier cette semaine. Un entretien avec une universitaire anglaise qui a fait tout un travail sur les Moudjahidettes de l'ALN après l'indépendance.
Effectivement, Jamel, il s'agit d'un entretien avec Natalia Vince, une universitaire anglaise qui a préparé une thèse sur les Moudjahidettes algériennes et leur parcours après l'indépendance. Natalia Vince a réalisé son travail après plusieurs enquêtes menées sur le terrain qui l'ont conduite d'ailleurs à la rencontre de ces vaillantes femmes. Malheureusement, pour le grand public, son travail n'est pas encore traduit en arabe ou en français. Il faut dire que Natalia Vince est aujourd'hui en Algérie. Elle assure des cours à l'université d'Alger 2 dans le cadre d'un programme de partenariat avec l'Union européenne.
Écoutons d'abord Hassan Arab avant votre entretien, Natalia Vince, qui l'année dernière avait raconté à Rachida Mansouf cette anecdote délicieuse à propos de la Moudjahida Mimi Maziz, qui lui racontait son retour après la guerre.
Je suis rentrée chez moi et je dis à ma mère, ça y est, j'ai trouvé du travail, je vais travailler au journal. Et elle m'a dit, ben oui, qu'est-ce que tu veux ma fille? Nous les indigènes, parce qu'elle pensait encore comme au temps de la France, on est des vendeurs de journaux et des serreurs de chaussures. J'ai dit non, je ne vais pas vendre des journaux, je vais être journaliste. Elle m'a dit qu'est-ce qu'il faut.
Je vous invite à suivre cet entretien.
Madame Natalia Vince, bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé sur les Moudjahidettes après l'indépendance. Pourquoi ce sujet a-t-il été important pour une jeune Anglaise?
C'est une bonne question et je tiens tout d'abord à rendre hommage à Jamila Amran, la Hama qui est morte il y a quelques semaines, parce que c'est elle qui a vraiment ouvert le chemin pour tous les chercheurs qui s'intéressent aux questions de l'expérience des femmes algériennes pendant la guerre de libération, et avec 2 ouvrages clés. Qui sont les femmes algériennes dans la guerre, et après un autre ouvrage où elle a publié des entretiens avec des femmes qui ont participé. Et c'est vraiment les premières œuvres qui s'intéressaient à l'expérience des femmes et aussi un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Mais il est vrai que ces travaux, ainsi que la plupart des travaux sur les Moudjahidettes, se terminent en 1962. Donc, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Et cet intérêt aussi était nourri par un intérêt pour la littérature algérienne, parce que les années 60, c'était une période très riche pour les auteurs algériens qui ont beaucoup écrit sur les premières années de l'indépendance. Donc j'ai souhaité porter un regard d'historienne sur cette période. Et après, je suis née en Algérie pour la première fois en 2005, et c'était juste à la sortie de la décennie noire. n'y avait pas beaucoup d'étrangers en Algérie à ce moment-là. Et j'étais très, très agréablement surprise et de trouver que les femmes elles acceptaient de me parler. On m'a très bien accueillie et mon intérêt pour les Moudjahidat, vraiment, ça a pris son élan à partir de ce moment-là.
Donc le 5 juillet, c'était la liesse générale. Alors, les femmes drapeau à la main ont le geste libre, la joie. Peut-on affirmer que les femmes se sentaient alors partie prenante de l'indépendance arrachée de haute lutte?
Je pense que cela va de soi. Hein. On assiste en 60 à une appropriation de l'espace public, comme vous dites, par les hommes, par les femmes, par les enfants. Donc, on a les Algériens qui vont dans les endroits qui étaient plus ou moins interdits aux Algériens pendant l'époque coloniale. Donc, à Alger, il y a les Algériens qui investissent le quartier européen, dans d'autres villes d'Algérie aussi. On a des femmes qui passent la nuit dehors, ce qui, vu les codes sociétales, c'était difficile à imaginer. Donc les femmes aussi appropriaient l'espace qui était considéré masculin à l'époque et faisaient tout à fait partie de cet élan de joie, d'espoir aussi de l'été 62.
Qu'attendaient les femmes spécialement de l'indépendance de l'Algérie?
C'est difficile à dire parce qu'on ne pose pas la question que attendaient les hommes de l'indépendance parce que oui. Les femmes comme les hommes, elles avaient des attentes différentes. Donc maintenant, c'est très bien qu'au sein même du FLN, il y avait des courants différents qui avaient des visions des fois assez opposées. Que ça devrait être l'Algérie indépendante. Et pour les femmes, on peut dire la même chose, même si finalement il y avait très peu de femmes qui occupaient des postes très élevés dans la hiérarchie du parti du FLN. On peut dire que pour la plupart des femmes, parmi les femmes que j'ai interviewées, elles attendaient le retour des membres de leur famille. Donc les hommes qui sont peut-être partis au maquis ou peut-être qui étaient au Maroc ou en Tunisie à ce moment-là, qui étaient en prison, elles attendaient que ces hommes reviennent, les femmes aussi qui étaient en prison, qui étaient parties, qu'elles reviennent aussi. On imaginait l'indépendance comme une émancipation sociale, une émancipation politique aussi. Il y avait, parmi les femmes avec qui je fais des entretiens, il y avait des femmes qui ont lié le combat contre le colonialisme avec un combat contre la patriarchie. Et il y avait d'autres femmes ou qui n'imaginaient pas leur monde en utilisant ces termes-là. Donc les attentes des femmes comme les attentes des hommes étaient diverses et variées.
Quelles attitudes nouvelles vos enquêtes ont-elles permis d'observer?
On a quand même pas mal d'histoires et on les retrouve dans la presse ces dernières années où on raconte que l'été 62 a été marqué par ce qu'on pourrait appeler un retour à l'ordre social où petit à petit il y avait des hommes qui prenaient des positions de pouvoir, qui essayaient de sortir les femmes des réunions publiques, qui ne voulaient pas les quitter dans les réunions publiques, qui essayaient de faire une séparation qui n'existait pas pendant la guerre, pendant la lutte. Donc ça on le retrouve quelques témoignages qui vont dans ce sens-là. Parmi les Moudjahidat qui ont eu accès aux études pendant la période coloniale, il faut dire qu'elles n'étaient pas très nombreuses. Il y avait chez les femmes un taux d'analphabétisme qui était très élevé, comme chez les hommes, mais c'était encore plus marqué chez les femmes. Mais parmi les femmes qui ont quand même eu accès aux études, il y avait... Les femmes, elles ont participé à la construction de l'État algérien, à participer à la remise en place des institutions, des administrations, des hôpitaux, des écoles. Et elles se sont opposées aussi. Et des fois, ça a été un peu compliqué. Mais c'était quand même des femmes qui avaient une certaine assurance et des femmes qui avaient participé à la guerre, qui ne se laissaient pas faire non plus. Donc elles ont réussi à faire des carrières dans la médecine ou dans le journalisme, dans l'enseignement aussi.
Elles étaient, pour certaines, une poignée à faire partie de la première assemblée constituante, mais on ne sait pas trop de choses sur ces femmes-là, par exemple.
Oui. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant par rapport à la première assemblée constituante, c'est qu'il y avait 10 femmes sur 196 députés.
Oui.
Donc, c'est pas beaucoup, ça fait 5%. Mmh. Mais si on fait la comparaison, par exemple, avec la France ou avec la Grande-Bretagne à l'époque, en France, en 62, il n'y avait même pas 2% des députés qui étaient femmes. Et en Angleterre, il fallait attendre jusqu'à 1987 pour arriver à 5% de députés femmes. Donc 10% de femmes députées en 1962, c'était pas mal dans un contexte international. Donc toutes les femmes dans l'Assemblée constituante à l'époque, c'était des moudjihidettes. Il y avait des femmes qui ont été arrêtées dans le maquis, comme par exemple Safia Bazzi ou Myriam Belmihoub ou Fadela Mesli. Après, il y avait des femmes qui étaient dans le réseau, la zone autonome d'Alger, comme oui. Zohra Dreif. Et après, il y avait aussi il y avait la femme de Khemisti, Fatima Meshich Khemisti. Il y avait Yvine Lavalette, qui a récemment publié ses mémoires aussi. Donc, c'était un groupe de femmes qui étaient déjà assez bien connues et qui sont restées pendant les débats de l'Assemblée constituante, qui ont fait passer une certaine législation. Par exemple, la loi Khemisti, c'est le travail de Madame Khemisti qui a augmenté l'âge de mariage pour les garçons et pour les filles en Algérie. Donc ça, c'est une des premières lois qui était passée après 62 en Algérie indépendante. Mais après qu'on arrive à la première Assemblée nationale, c'est-à-dire après l'Assemblée constituante en 64, le nombre de femmes est assez réduit. On voit la plupart de ces femmes qui ont participé à l'Assemblée constituante sont parties.
Le premier gouvernement, il n'y avait aucune femme.
Non, il n'y en avait pas, non.
Est-ce que cela n'a pas influé sur les rapports sociaux?
Là, on revient à la question, et ce n'est pas une question qui se pose uniquement parfois à l'histoire de l'Algérie, mais est-ce que les guerres, ça constitue une rupture dans les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports de genre? Ou est-ce que finalement il y a énormément de continuité avant, pendant et après la guerre qui sont peut-être masquées par les conditions exceptionnelles de la guerre, on va dire. C'est assez difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte que si ces femmes ont disparu, ont donné l'impression de disparaître de la scène politique, c'est-à-dire des rôles très visibles à l'Assemblée nationale ou pas du tout présent dans le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas joué d'autres rôles qui étaient moins visibles. Par exemple, pendant les années 60, il y avait des femmes qui avaient des positions de responsabilité dans les hôpitaux, au sein de l'éducation nationale, etc., etc., mais qui ne cherchaient pas forcément à être dans l'avant-scène de la scène politique en Algérie. Et aussi, ça peut aussi être pour des raisons politiques qui ne sont pas liées au fait qu'elles sont femmes qui se retirent de la vie politique, comme les hommes qui se sont retirés de la vie politique après 63, 64. Hein. Les femmes n'agissent pas que comme des femmes. Leur décision et le choix de se retirer, c'est pas parce qu'elles sont confrontées à des problèmes en tant que femmes. Ça peut aussi être pour d'autres raisons politiques. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans l'Assemblée constituante qu'on ne retrouve plus dans l'Assemblée nationale après.
Vous savez qu'il y a eu une marche le 8 mars oui. 1963, mais l'histoire retient toujours la marche du 8 mars 1965. Pourquoi?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'était la première fois depuis l'indépendance que les femmes ont manifesté en tant que femmes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les revendications des femmes n'étaient pas très très présente, ni pendant la guerre, ni après 62. Donc, quand on discute avec les femmes qui ont fait la guerre, souvent on parle du fait de faire la guerre, pas en tant qu'homme, en tant que femme, mais en tant qu'Algérien, en tant que citoyen. Donc, l'idée qu'on allait avoir des revendications particulières en tant que femme, c'était presque dévalorisé. Et c'est pour ça que la manifestation du 8 mars 1965, c'est assez exceptionnel, parce que pour la première fois, les femmes sont organisées en tant que femmes et sont manifestées avec des revendications des femmes. Donc, c'est-à-dire plus d'accès au travail. Déjà, à ce moment-là, on parlait d'un nouveau code de la famille, plus d'égalité dans la loi, etc., etc. Et aussi, il y avait des slogans, en gros, les femmes au travail, les hommes aux casseroles, les choses comme ça. Et en fait, c'est une marche qui est devenue un petit peu mythique dans l'histoire de la femme en Algérie, parce que ça s'est terminé avec une grande réunion à la salle majestique à Alger, où Ben Bella est venu et il a parlé aux femmes. Et les femmes qui étaient dans cette salle-là, elles racontent qu'il était choqué, il était assez impressionné par la présence des femmes et la force de leurs revendications pour avoir vraiment une position d'égalité dans l'Algérie indépendante. Et il leur a dit, en gros, vous avez vos droits. Et c'est vrai, les femmes, dans la Constitution, elles avaient leurs droits. Mais il leur a dit, vous avez vos droits, arrachez-les. Et en gros, le meeting a terminé dans un élan, pour les femmes qui étaient là, un élan d'enthousiasme qui a vite retombé, parce que le lendemain, il y avait beaucoup d'hommes qui n'étaient pas très contents de la participation de leurs femmes dans cette manifestation, qui ont battu leurs femmes, qui les ont repudiées. Et finalement, rien n'est vraiment sorti de cette manifestation, parce qu'il y a eu le coup d'État quelques mois après.
Les politiques de Boumediene et de Ben Bella se sont plutôt attaquées au chantier prioritaire, à savoir la lutte contre l'analphabétisme. Est-ce que la scolarisation donc des garçons et des filles était un élément déterminant pour la transformation des rapports entre les genres, évidemment?
Je pense que ce qu'il faut dire, c'est à la rentrée 62, il n'y a aucune discrimination entre les garçons et les filles pour les inscriptions à l'école. Hein. Et, oui. Et là, c'est quand même quelque chose de très impressionnant, parce que peut-être on aurait pu imaginer que, vu qu'il n'y avait pas assez d'instituteurs, peut-être on allait donner une préférence aux garçons, mais ce n'était vraiment pas le cas. Les garçons et les filles étaient inscrits à l'école. Les garçons n'avaient pas de privilèges sur les filles, et les filles n'avaient pas de privilèges sur les garçons. Donc c'est comme vous dites, c'est la scolarisation, la lutte contre l'analphabétisme, c'était une lutte pour tous les garçons et tous les filles. Et on voit très rapidement les résultats, hein, pendant les années 70, on a les femmes qui vont à l'université en assez grand nombre, dont les mères étaient analphabètes, et qui font quand même des études, qui ont des carrières par la suite. Et finalement, on arrive à la situation aujourd'hui où l'université en Algérie, il y a beaucoup plus de filles que de garçons,
effectivement.
Des proportions très impressionnantes.
En 1984, lors de l'adoption du Code de la famille, qu'est-ce qui s'est passé?
Si on parle du Code de la famille, il faut se rappeler qu'en fait, on parlait d'un nouveau Code de la famille depuis 1962. Parce que, à l'indépendance, on a reconduit les lois françaises dans presque tous les cas, parce que, évidemment, il était trop difficile de changer toute la législation d'un seul coup. Et cette situation a duré jusqu'au milieu des années 70. Donc ça voulait dire qu'en Algérie, on avait ce qu'on avait introduit en Algérie après 56-57, donc un peu des aspects du code civil français, mais en même temps, dans les tribunaux et en des questions qui réglaient les questions de la famille, héritage, mariage, divorce, il y avait aussi beaucoup de juges qui puisaient dans la loi islamique. Donc, il y avait un petit peu un système à deux vitesses. Et pendant très longtemps, on a parlé d'un code de la famille, d'un nouveau code de la famille, d'une commission pour le code de la famille. Et en gros, pendant les années 60, les années 70, rien s'est passé parce qu'il y avait deux options qui s'opposaient. Et chaque option arrivait à contrecarrer l'autre sans arriver à une résolution finale. Donc il y avait l'option un petit peu dans le genre de Bourguiba où on s'éloignait de la loi religieuse pour un code plus ou moins civique et l'option plus plus conservatrice, plus religieuse. Et les femmes, les moudjihidettes qui étaient dans l'Assemblée nationale à la fin des années 70, début des années 80, parce qu'il y en a pas mal qui sont retournées à l'Assemblée nationale fin des années 70, elles ont quand même réussi à bloquer plusieurs versions d'une code de la famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 82, il y a eu des élections législatives et il n'y avait pas les mêmes femmes à l'Assemblée nationale pendant les débats contre le code de la famille. Mais aussi que l'environnement, l'ambiance politique générale a beaucoup changé en Algérie à ce moment-là aussi, et dans le monde entier. Donc en 79, on a eu la révolution iranienne, on commence à voir la montée de l'islamisme en Algérie. Donc quand le code de la famille passe en 84, l'Algérie ou un certain nombre d'Algériens découvrent d'autres valeurs, d'autres références qui ne sont plus liées à la guerre de libération. Et donc le poids de ces femmes dans les manifestations contre le code de la famille, et à ce moment-là dans l'histoire, ça n'a plus la même force qu'avant.
Que pensez-vous qu'il faille laisser aux générations futures de cette génération de combattantes qui se sont sacrifiées pour l'indépendance de l'Algérie ?
Ben, pour moi, c'est une question qui me tient à cœur parce que j'ai une petite fille qui est binationale, donc qui est anglo-algérienne. Bon, on n'a que 7 ans, j'étais très contente de voir quand même que Hasiba Ben Bouali, les derniers manuels scolaires, même en Sénaloula. Et bon, souvent, c'est des femmes qui ont été marginalisées dans la société coloniale parce qu'elles étaient algériennes. Après l'indépendance, des fois, elles ont été marginalisées parce que c'était des femmes qui voulaient travailler, qui voulaient avoir des droits dans une société qui n'était pas toujours d'accord avec ces options-là. Et c'est des femmes qui n'ont jamais laissé baisser leurs bras. Donc, l'idée qu'il faut résister, il faut continuer. Je pense que c'est une très belle leçon à toutes les Algériennes et tous les Algériens aussi.
Madame Natalia Vince, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence et vous êtes chercheuse anglaise et vous travaillez à Alger, à l'Université d'Alger, dans le cadre d'un projet avec l'Union européenne. Et vous avez déjà consacré un livre aux Moudjahidettes après l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Place aux archives. Aïcha Hammer, notre réalisatrice, va vous faire entendre quelques archives sonores qui traversent les 55 ans qui nous séparent de l'indépendance. Commençons par Madame Fatoma Ouzgen, Moudjahida et engagée jusqu'à aujourd'hui, qui explique pourquoi les Moudjahidettes se sont retrouvées en retrait.
بصح راني نشوف رانا ولينا 50 سنه للور ان شاء الله نزيد نكافح مع هاد الجدد حتى ان شاء الله قبل ما نموت نخلي البلاد كيما الناس ما تتعليها يا كلمه تتعليها غير على النيف ما تتعليها اللي باش تكون حره اللي باش ما تكونش عليها سيطاره.
Une jeune journaliste des années 60 qui deviendra plus tard Madame Benbella, Zohor Salami résume le sentiment des jeunes femmes des années 60.
Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté, pour les femmes en général non plus, si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout. C'est très simple, mais c'est normal, puisque les structures sociales ne peuvent pas être changées ni en un an, ni dans cinq ans, ni dans 10 ans, à moins d'une véritable révolution. Il y a une société en quelque sorte méfiante et hostile envers les femmes, c'est tout. Et le fait que dans la rue on voit fort peu de femmes, elles se sentent exclues en quelque sorte du public et de la société. Elles ne sont que supportées, c'est tout, on les supporte, c'est tout. Et les filles qui sortent comme ça, eh bien, elles ressentent évidemment le contre-coup de toute cette atmosphère. Ça ne se produit pas seulement pour les femmes, aussi pour les hommes. C'est très difficile, il n'y a pas de communication entre les hommes et les femmes en Algérie. Il n'y a pas de dialogue, il y a un monologue de part et d'autre.
La formidable manifestation populaire du 8 mars 1965 à Alger, rapportée par un documentaire de la télévision suisse romande.
Les espoirs des Algériennes vont être cruellement déçus. À peine retombée l'euphorie de l'indépendance, c'est la colère qui les fait descendre dans la rue. 3 ans après la création de la République algérienne, elles sont alors 10 000 dans les rues d'Alger pour réclamer leur émancipation.
Nous sommes en 1966, dans un collège, 3 adolescentes, à peine sorties de l'enfance, témoignent de leur époque.
Le fait déjà d'avoir accès à des études, si on veut, c'est déjà un privilège par rapport à l'ensemble, mais les autres. Celles qui sont chez elles, celles qui ne sortent pas, qui ne travaillent pas, elles ont moins d'instruction, moins de connaissances.
Une élève, une fille par exemple, qu'on arrête au niveau du BEPC, pour quoi faire? Pour la garder à la maison, parce qu'elle est grande.
Je dois m'estimer heureuse de continuer mes études. À part ça, je n'ai pas d'autres distractions.
Non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de distraction qu'elle est malheureuse. C'est parce que ses parents ne la comprennent pas, enfin, elle est résignée.
Pour moi, il me semble que la jeune fille algérienne doit avant tout, avant toutes les considérations, voir le devoir, vous voyez, au nom de la révolution, au nom d'un tel truc.
Mon émancipation pour mes enfants serait mon émancipation à moi-même que je continuerai. C'est-à-dire en leur donnant tout ce qui m'a manqué et en les comprenant vraiment.
Ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou une autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme.
Avec la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie récupère sa principale source de richesse et Boumediene lance les grands travaux dans tous les domaines. On a besoin des femmes. Écoutons ce dialogue entre Boumediene et un jeune à propos de la femme rurale.
كيفاش تشوف حسب رايك الحق نتاع المراه الريفيه
حسب رايي انا تكون المراه الريفيه يعني في مستوى عالي كما الاخرى في الجانب الثقافي وفي الجانب الصحي وفي الجانب الخدمه يعني فعاله تباشر بالاعمال نتاعها تعرضها سواء في خياطه سواء في صناعه سواء في حاجات اخرى
او فيه اللي ظلوا مغمدزين عليها وشادها ما يطلقهاش
لا هذيك لا احنا ما نحبوش
نعم
احنا ما نحبوش هذه احنا اليوم رانا في وطن مستقل
لا وانا شفت في بعض الجبال في بعض الفلاحين كانوا لبرا نهار جبناهم للقرى كل واحد شد المراه نتاعو وقفل عليها في البيت نتاع القريه الاشتراكيه
صحيحه
كاينه انا شفتها انا
كاختراع ونقدم فيه ونقول باللي يعني الشيء هذا ما يكونش
Dans cette archive, Anissa Boumediene témoigne des intentions du président Boumediene dont elle était l'épouse.
Boumediene était pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il a toujours encouragé l'émancipation de la femme. Il a fait que des jeunes filles qui ne connaissaient pas l'école aillent à l'école. Il a ouvert les portes de l'université aux femmes. Et même lors de son dernier séjour pendant sa maladie en Union soviétique, où la majorité du corps médical à ce moment-là était féminin, il me disait « voilà tout ce que je souhaite pour nos femmes, je veux qu'elles soient toutes instruites et qu'elles aient des postes qu'elles mériteront par la suite ».
Les images de réussite professionnelle des femmes ne quittent plus les écrans de la télévision. Ici, la première pilote de chasse, Hakima Abdesmad.
وعلى اساس هذا الشيء اللي سماني بابا حكيمه باش نولي له حكيمه هذاك كنا ماشيين هكذاك نحكوا حتى نشوفوا ان افيش بوبليسيتير مصوره ان جون في لابسه لونيفورم افيك ان سلوغان جون في ديفوني بيلوت وبقيت نفكر فيها بقيت نشوف فيها وبقيت وبابا ثاني اهتم بهذيك اللائحه وباقي ومن بعد هو فهمني وانا فهمته. C'était dans le cadre d'une stratégie globale, le recrutement de ces femmes. C'était donc bien sûr Boumedine Lahmahoua, il met le feu vert. Comment dire, la promotion de l'Oula, qu'on a 45 mara. 45 mara, on a fait beaucoup de spécialités. Mais on a fait le pilotage. On a fait la chasse parce que, avec le temps, les chasseurs, c'est. C'est de par le monde, hein. Les chasseurs, c'est les meilleurs pilotes. Le MiG-21, c'est la période la plus intéressante, parce que c'est vrai que le MiG-21, d'abord, c'est un bel avion. Je suis une des, parmi les grands chanceux.
Un extrait du film de Sidi Ali Mazif, Leïla et les autres, réalisé en 1977, montre les femmes travailleuses en lutte. Les ouvrières en particulier s'y reconnaissent.
انتي ما تقدريش تخفي روحك شويه جيتي لهنا باش ترقدي اذا ما راكيش قادره تقومي بهذا العمل خدمي حاجه اخرى كنسي الزبل مسحي الغبار مانيش عارف انا هنا في المصنع الخدمه متقونه اهلا بها راجل كرمه
ماشي حق عليك مرا شريفه تخدم باش تجيب الخبز لولادها نطت من المدى هزه
هذه حقره هذه وعلاش هذا الموضوع وعلاش
هذا ما خصك غير البكا انتم نساء هذا هو سلاحكم اذا ما تقدروش تخدموا اقعدوا في الدار ربي والدراري وطيبوا الماكله
ما وش حق عليك تهضر معنا هكذا راك في المصنع هنا ولازم تحترم العمال اللي بحالك عندهم قدرهم
هيا يلا رانا ضيعنا بزاف الوقت
اجي تمسنا في شرفنا كنساء وعاملات ومن بعد تمرنا نرجعوا لخدمتنا هذه ما كانش منها
اما لو واش تحبوا
تطلب السماح من عند زبيده
ايوه انا راني موافق معاكم وهذا الرجل وين رايح يزيد يتسردك رجع ما ينحملش ماشي غير يطلب صلاح لازم نحوزوه هادو رفيقاتنا في العمل هما يتحوزوا وحنا نتفرجوا
واذا تحوزوا حنا واش رحنا
ليش رازو بيدك شو واحد يقبلوا لو كان واحده من عائلتك صرا لها كيفها تقبل ما خلوش رفيقاتنا يتحوزوا لازم نتكتفوا معاهم هذه مساله تضامن
Fadela Mrabet, auteur de deux ouvrages sur les femmes à la même époque, avait assuré le lien, à travers la radio algérienne, avec la jeunesse qui pouvait ainsi parler de son présent.
Eh bien, pour dire la situation scandaleuse qui est faite à la femme dans un pays qui se dit socialiste. Par exemple, je vais vous donner un exemple bien précis, l'article 18 du projet de Code de la famille, qui dit que la femme, même majeure, a besoin d'un tuteur pour se marier. Elle est d'abord sous la domination du père ou bien du frère, et puis ensuite le père ou le frère la confie ou bien la lègue à son mari. Beaucoup de jeunes filles maintenant n'acceptent pas le mariage traditionnel, mais quand on les force, pour l'instant, elles n'ont qu'une alternative, le suicide ou bien alors la rue. Parce qu'il n'y a pas de foyer pour les accueillir lorsqu'elles entrent en conflit avec leurs parents. Au fond, dans les maquis, les femmes algériennes ont été de simples exécutantes. Elles ont été utilisées et puis, une fois la guerre terminée, On leur a dit, c'est très bien, vous avez fait votre devoir. Maintenant, la petite récréation est terminée. Vous allez reprendre votre place traditionnelle. Mais seulement la femme, étant donné qu'elle a lutté dans le maquis, elle doit quand même savoir que l'indépendance, ça s'arrache, qu'elle ne souffre pas. Il me semble que si, dès la maternelle, on mettait des garçons et des filles côte à côte, eh bien le garçon finirait par voir dans la fille un être humain, d'abord.
La crise des années 80 et le code de la famille provoquent la colère et la mobilisation de milliers de femmes à travers le territoire national. Les femmes devenues l'enjeu de batailles politiques résistent à la régression due à la montée des thèses islamistes. De nouvelles plaies s'ajoutent aux anciennes et font encore une fois réagir. Une mujahida, Madame Aïcha Bouzar, décide de se battre pour les femmes en détresse pendant qu'une jeune fille témoigne des nouvelles violences de la décennie noire.
Tous les jours je mène un combat, tous les jours je sors quelqu'un dans la rue. Tous les jours, je lui sauve la vie à une sœur qui est en détresse. Et ça, je l'ai toujours fait. Et je continuerai de le faire, et personne ne m'empêchera de le faire, pour défendre ce droit à l'identité algérienne, à l'identité de femme algérienne.
Ils l'ont pris devant son père, sa mère. Son père criait, prenez-moi moi, on sait très bien ce que c'est l'honneur de la fille en Algérie. Le père, il a été frappé avec une crosse, on a pris la fille, Sonia. Et on l'a violée à l'âge de 15 ans. On l'a tuée dans sa chair, au nom de Allah, au nom de l'islam qui n'est pas l'islam.
La femme ne s'exprime plus chez elle. C'est devenu quelque chose d'éteint. Elle est récroquevillée dans son coin. Elle n'a plus rien à dire. C'est le refuge dans la religion, comme certains le veulent. Alors que ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça. L'islam, c'est quelque chose de merveilleux. Non, moi je me battrai, ça, il n'en est pas question, et nous sommes toutes déterminées. Il y a eu ce code de la famille qui a brisé l'élan féminin.
Il n'en demeure pas moins que les femmes continuent de s'investir dans les études et les défis professionnels. Safia Bourga est chef de chantier à Hassi Mesoud.
J'ai fait un magistère en génie civil, j'ai fait l'étude dans l'Institut algérien de pétrole au niveau de Boumerdès, master en forage, production, gisement. Ensuite, j'ai été l'entreprise nationale des travaux au puits. J'ai fait des postes sur chantier. J'ai fait comme second de poste et chef de poste. Ensuite, adjoint chef chantier. J'ai fait sur chantier fin nahar kima fin lil. Le travail de chef chantier, c'est un travail pénible. Mais j'assume, parce que j'aime mon travail. Les hydrocarbures, c'est une richesse nationale. Quand est-ce qu'on a la production. Mais l'indrogène, c'est qu'on a la production avec les femmes.
Sidali Fares, dans Des noms et des lieux, vous nous avez réservé un reportage sur une icône du sport algérien. Première médaille d'or olympique d'athlétisme d'Algérie et du monde arabe, Hassiba Boulmerka.
Oui, Jamal, une jeune femme qui a relevé le défi dans une période difficile de l'Algérie.
I saw interviewed on television the other day and she said, I want to do what I want to do. And I want to demonstrate that African women and Muslim women have got a real place in sport. She's produced the perfect demonstration.
Est-ce que vous vous rappelez de Hassiba Boulmerka?
Mais bien sûr, c'est une icône. Parce que pour son histoire, elle a honoré la femme algérienne, elle a beaucoup donné. Surtout pendant les années 80. 14-95. Personnellement, j'en ai toujours la chair de poule quand tu me rappelles des cérémonies quand elle gagnait et qu'on avait, comment on dit, Al-Ray Al-Watani, et qu'on avait le drapeau algérien et l'hymne national qui était chanté.
C'est plus qu'une athlète, c'est le modèle de la femme algérienne et surtout c'est un grand modèle pour moi, à mes yeux, de courage. La
oui,
bien sûr, vue, revue. Mais ce que j'aime revoir, c'est l'hymne national en sa présence.
Elle s'est sacrifiée sur le plan personnel et familial pour concrétiser ses rêves. Certes, c'est pour elle, mais aussi c'est pour nous. Elle a fait pour tous
c'est
les Algériens.
Voilà, c'est une mujahida sportive.
La rage a dit que Hassiba Boulmerka,
elle lui a donné, comme on dit, une force supplémentaire à cause de ce qui s'est passé, les débuts des événements, la décennie noire. Elle a fait connaître la voix algérienne, en même temps la femme algérienne en général et elle-même en particulier.
وقت الدعوة كانت جابتها يا أخو الله يبارك فيها الصحة يا أخو
مام في الوقت الشدة كانت تجري وجبت وفتعتنا رفعتنا العلم تاعنا وديجا مام أنا فيتي سا اللي جو مسوفيان ليكول
سي تون ايماج كي ريستي غرافي دون ما تيت اون فان كون
في الماما وين ننسى سيرا اللي كانوا يخرجوا لي كانوا يديروا براتيكمون لو سبور
Hassiba Boulmalka, qui peut oublier le nom de cet athlète qui a décroché en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone la première médaille d'or olympique de l'Algérie indépendante. Né le 10 juillet 1968 à Constantine, Hassiba Boulmalka est spécialiste des courses de demi-fond, du 800 et du 1500 mètres. L'aventure commence pour elle en 1986. Hassiba Boulmalka découvre les compétitions internationales lors du championnat du monde de cross où elle termine à la 80e place.
في سباق العراق هذاك الوقت سباق الضاحية سنة 86 كان بالنسبة إلي يعني عهد مع نفسي باش نتحدى كل الصعاب وكل العوائق أي حاجة توقف في طريقي لازم نتحداها باش نكمل المشوار تاعي ونوصل الى القمه.
Elle s'entraîne de façon acharnée, plusieurs heures par jour, tous les jours de la semaine. Deux ans plus tard, 1988-1989, Hassiba est double championne d'Afrique aux 800 et aux 1500 mètres. 1991, première place aux Jeux méditerranéens et surtout champion du monde à Tokyo.
Ha corrido magníficamente la argelina esperando su momento para lanzar el definitivo ataque. Así va Boulmalka de Argelia, que llegaba aquí con la segunda mejor marca mundial de la temporada, con 4 minutos justos. La marca no ha sido buena, 4:02:21. Ha sido una carrera muy táctica, pero ha corrido fenomenal la argelina para conseguir esta medalla de oro.
Tour d'honneur, enveloppée dans le drapeau national, elle est la première Algérienne, la première Africaine, la première Arabe à devenir championne du monde d'athlétisme.
Beaucoup, beaucoup de traditions qui sont un grand obstacle toujours dans la vie d'un athlète, surtout une athlète femme. C'est très, très dur. En 1992, il y a des régions en Algérie qui empêchent la femme d'aller à l'école. Comment voulez-vous qu'il laisse la femme faire du sport ?
Toujours en 1991, en pleine violence islamiste contre les femmes, dans les espaces publics, les images de Hassiba courant librement en short, les yeux éclatants de bonheur et de fierté qui bouleversent une grande partie de la population. Lui valent la haine et les menaces de mort. Elle perd son travail pour absence. Elle est placée sous protection policière et sera obligée de s'entraîner à l'étranger.
كانت صعبة عليا الامور باش يعني ندرب وصعبة عليا حتى الامور باش نقدر نتحرك ولا نمشي يعني ولو كان يعني 100 خطوة هكا باش نشرب قهوة ولا حاجة فصبحت يعني صبح الانسان مرعوب تيروريزي كيفاش انسان عنده نفسيته تيروريزي ولازم يروح يتحمل تدريبات تاع 8 ساعات في اليوم غادرت في بداية الأمر إلى كنت ندرب في ألمانيا وبعدين صرنا ما نقدرش ندربوا في ألمانيا خصوصا في فصل الشتاء اللي كان الجو كان بارد كتير وبالتالي مشينا مباشرة لمدينة هافانا في كوبا
Au JO de 1992 à Barcelone, Hassiba Danone la Grande, Ludmila Rogachova. Puis, dans les derniers 200 mètres, elle la dépasse sous les yeux médusés du stade en délire et sur tous les écrans du monde.
Hassiba,
لتنطلق الآن حاسبة تأخذ المقدمة في 200 متر قد خذ الوصول أمام روغاتشيفا، ويبدو لي اللي حاسبة راح تفوز حقيقة، راح تفوز بكل سهولة وبكل روعة، وبعد ما كانت بطلة العالم في طوكيو راح تكون بطلة الأولمبياد، وهذا لأول مرة كذلك في تاريخ الأولمبياد جزائرية تفوز بالميدالية الذهبية.
الشيء اللي هو خارق للعادة جدا جدا أنني سنة 92 لم أقم بأي سباق، ومن التحضيرات مباشرة إلى بطلون.
Gardez le souvenir de chaque centimètre de la piste.
الألعاب الأولمبية اللي تربحت بثلاث دقائق و55 سنة 92 ما زادش تربحت ألعاب أولمبية مثل هذا التوقيت حتى الساعة الحاضرة. فاز ألعاب أتلانتا 96 وما تربحتش بها، فاز ألعاب سيدني وما تربحتش بها، ألعاب أتين وما تربحتش بها، ألعاب بيكان وما تربحتش بها، وألعاب لندن ما تربحتش بها، وحتى واحد ما ربح الأولمبية بالتوقيت تاعي.
Elle remportera d'autres titres encore malgré les difficultés et les deuils familiaux et remportera son deuxième titre mondial en
1995. باللي ليس كل ما يرمز إلى الجزائر هو سيء.
En 1998, Boulmalqa met un terme à sa carrière de sportive. Elle occupe pendant une période un poste au sein de la commission des athlètes du Comité international olympique, avant de se reverser dans le monde des affaires.
يقول لك نو ربح وزهر، لا لا لا، انا وزميلي مصري عملنا ثوره رياضيه، يعني بدات من التسعينات حتى فاتت 2000 وحنايا نربح وواجدين وحاضرين بالارقام القياسيه بالبطولات بالالعاب الاولمبيه.
Elle exprime toujours la plus grande des reconnaissances aux trois entraîneurs qui l'ont aidé à se réaliser. Abou Dlabed qui l'a découverte quand elle était collégienne. Chérif Grabsi, son premier entraîneur qui l'a révélé à elle-même, et Ammar Bouras qui l'accompagne jusqu'à la postérité.
Ana kunt mujawad tilmida fi madrasa. L'oustad ntaei hadak lwaqt li kant yismou ha Samia Mqidj. Fi hadak lwaqt hiya min iktashafat lmouhiba ntaei fi ljari ba3da ma ajrat lana ikhtibar fi ljari. Wa shafatni billi yani arqam li kunt na3melha fi ljari kanet mudhila. فأعطتني فترة من الاستراحة وعودت لي نفس السباق، فأجريت توقيت أحسن من الأول، فصارت تصرخ وذهبت مباشرة إلى الأستاذ العابد عبود اللي كان هذاك الوقت مدرب. جاء شافني المدرب وبعد يومين جراو لي نفس الأخر وزدت عملت توقيت أحسن بكثير. مدرب السيد العبد قال لها أنا لازم نأخذ حزيبة لأنك على حق، هي تعد ألمازة نادرة جدا جدا، وقال لها الفتاة هذه ستكون هي مستقبل العاب القوة الجزائرية وستكون نجمة من النجوم، وهكذا كبدت الانطلاق.
Distinguée par plusieurs prix internationaux, décorée de l'ordre du mérite national en Algérie, Hassiba qui a su garder simplicité, enthousiasme et sens du partage est une légende vivante.
اليوم عندنا لها لوحة شرف كمواطنة شرفية للجزائر الوسطى، وكرمناها فيما يخص خاصة الجهودات المبذولة والروح الوطنية اللي كانت عندها في التسعينات وثلاثة وتسعين وين رفضت العلم الجزائري.
نتمنى إن شاء الله النجاح والخير لبلدنا الجزائر.
ها
Rachida Monsef, dans Des traces et des pistes, vous nous présentez l'ouvrage d'une historienne française, Diane Sambron, « Les femmes algériennes pendant la colonisation », paru en France en 2009 et en Algérie en 2012, aux éditions Casbah.
Eh oui, Jamel. Cet ouvrage est le fruit d'une thèse de doctorat de cette historienne française qui s'intéresse au Maghreb et à la question des femmes. Il est préfacé par son directeur de thèse, Jacques Frémaux. Et cet ouvrage, présenté au Maghreb des livres, l'année de sa parution, en 2009, est venu alimenter les controverses sur les apports et les méfaits du colonialisme. Vous vous souvenez tous de la loi de 2005. Et également sur le statut des femmes dans la mouvance de l'islam. Actualité française aussi. Et après avoir décrit en introduction la situation des femmes algériennes à la veille de 1830, Diane Sambron passera en revue le dispositif juridique qu'installera la colonisation au fil des années jusqu'en 1962, en s'appuyant sur l'analyse d'archives françaises institutionnelles. En fait, elle va reconstituer les étapes de ce qu'elle appelle la politique d'émancipation de la colonisation. Eh oui, en Algérie, rien de moins. En introduction, la société précoloniale algérienne est présentée sans surprise à travers deux aires d'influence. Celle de l'islam, dans une conception maléquite majoritairement associée à des coutumes différenciées selon que l'on soit kabyle ou arabe. On reconnaît là la politique de division de la colonisation, mais pour l'auteur, aucun commentaire. C'est un fait, une vérité peut-être. Et deuxième ère, celle de la Méditerranée avec ses pratiques patriarcales. C'est là que Diane Sambron insère ensuite le choc qu'a constitué la rencontre avec le modèle familial conjugal porté par les Européens qui arrivent sur le territoire algérien pour le peupler, modèle qui résulte de l'industrialisation du XIXe siècle en Europe. Ensuite, comme annoncé, Diane Sambron cheminera le long de la colonisation et légèrement au-delà, en soulignant à chaque étape les événements, les lois qui viennent bousculer les structures familiales traditionnelles de l'Algérie, ainsi que les mécanismes qui vont faire, heureusement, évoluer le statut des femmes envers et malgré les politiques de discrimination coloniale. Car il s'agit bien pour l'auteur d'évolution du statut des femmes au sein d'une évolution du système colonial français. Les titres des deux grandes parties qui composent cet ouvrage suffisent à attester de cette vision positiviste assez inhabituelle chez les dénonciateurs de la colonisation. La première partie s'intitule « L'évolution statutaire de la femme musulmane » et la deuxième « L'évolution de l'insertion socio-économique des femmes ». Diane Sambron souligne d'abord la singularité du cas algérien, puisque du point de vue du droit, les autochtones sont régis par un statut personnel qui respecte les us et coutumes musulmanes, ce qui va poser l'accès des musulmans à la citoyenneté comme impossible. Ne peuvent être citoyens que ceux qui renoncent à leur statut personnel et qui optent pour la naturalisation. De fait, les autochtones sont soumis à la fois au droit républicain métropolitain considéré comme émancipateur et au droit colonial qui exige la soumission. Pour Diane Sambron, le système colonial n'a plus d'autre solution que de tenter de rapprocher le statut musulman du droit positif français. Il en est ainsi à travers les mesures de protection du statut des femmes dans la famille, avec des dispositions sur le mariage, la limitation de la répudiation, le droit de divorce et la capacité successorale. Ces premières dispositions sont appliquées d'abord à la société kabyle dans les années 20. Et c'est seulement dans les années 50 que se forge, selon Diane Sambron, un contexte favorable au remaniement du statut personnel de la femme musulmane. C'est l'époque où la colonisation est forcée de rechercher une solution à l'intégration des musulmans à la vie politique. Sous-entendu pour nous, grâce au développement du mouvement national. Mais ça, elle ne le dit pas. Mais le statut personnel aura eu une conséquence plus grave, selon Diane Sambron, parce qu'il a créé une double société, européenne et indigène, qui a indéniablement freiné les mutations. Ce en quoi nous ne pouvons être que d'accord. Et c'est dans le contexte de la guerre que la législation française en Algérie tentera une vraie politique de la femme. Bien que l'épisode de 58 ne soit pas cité, elle cite le régime des tutelles et un nouvel avant-projet de code en 1957 et l'ordonnance du 4 février 1959. Diane Sambron fait un retour en arrière sur le XXe siècle du point de vue de la citoyenneté en soulignant l'accès inégal aux procédures de nationalisation entre les femmes et les hommes, ainsi que l'accès inégal aux droits électoraux. Alors que le droit de vote est enfin accordé aux femmes françaises à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il est différé pour les musulmanes d'Algérie. Et c'est de nouveau au sein de la guerre de libération nationale, en 1958, que la législation vis-à-vis des femmes s'assouplit et qu'on appellera les musulmanes à voter pour le référendum de Charles de Gaulle. Une chose est sûre, Diane Sambron estime que les Algériennes ont acquis des droits pendant la colonisation et que la reconduite des lois françaises après l'indépendance a valu aux Algériennes une parenthèse salutaire avant de revenir, les pauvres, aux brimations d'un code de la famille algérien ancestral en 1984. Mais nous ne pouvons que nous interroger. Comment peut-on, à partir de textes et de directives officielles, prétendre rendre compte d'une dynamique complexe, sociale et politique comme celle du face-à-face colonisateur-colonisé? Et puis, je ne peux me retenir de réagir négativement à une telle thèse, tant il m'apparaît que le repli identitaire provoqué par l'agression et l'occupation coloniale nous ont empêchés de forger librement nos chemins. Mais je préfère savoir que cette thèse existe et juger des pièces apportées. Mais, au fond, j'espère que nos historiens pourront y répondre afin de nous éclairer.
Nous arrivons à la fin de ce numéro. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un numéro consacré au cessez-le-feu du 19 mars 1962. D'ici là, bonne semaine et restez en contact à travers notre page Facebook Fachadou Histoire et Mémoire. Pour réécouter l'émission en podcast, rendez-vous sur le site de la radio algérienne radioalgérie.dz/chaîne 3. Dans la dernière minute, Samira Chouadria prête sa voix à un poème de Assia Jabarni Mortel, poème pour une Algérie heureuse.
Neige dans le Djurdjura, piège d'alouettes à Tikhta, des olivettes aux Ouadia. On me fouette à Azazga, un chevreau court sur la Hodna, des chevaux fuient de Meshriya, un chameau rêve à Hardeya, et mes sanglots à Djemila. Le grillon chante à Mansoura, un faucon vole sur Mascara, tison ardent à Abu Hanifa, pas de pardon au Qala. Des sycomores à Tipaza, une hyène sort à Mazouna, le bourreau dort à Meliana. Bientôt, ma mort à Zamora, une brebis à Nadroma, et un ami tout près d'Oujda, des cris de nuit à Marnia. Mon agonie à Saïda, la corde au cou à Frenda, sur les genoux à Wedfoda, dans les cailloux de Tchelfa. La proie des loups à Msila, beauté des jasmins à Coléa, rose de jardin de Blida sur le chemin de Mouzaïa. Je meurs de faim à Médéa, un ruisseau sec à Chelala, sombre fléau à Medjana, une gorgée d'eau à Boussaada, et mon tombeau au Sahara. Puis c'est l'alarme à Tebessa, les yeux sans larmes à Mila, quel vacarme à Ain Safra, on prend les armes à Galma, l'éclat du jour à Khenchla, un attentat à Beskra, des soldats à Onmencha, dernier combat à Betna. Neige dans le Djurdjura, piège d'alouette à Tikhta, des olivettes aux Ouadia, un air de fête au cœur tel Jazair.